Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab.
La radio sauvage.
Et oui, il est 6h avant minuit, c'est l'heure de l'émission d'info locale de Syllab. Vous êtes rennais ou rennaise ?
Oui.
Oui. Fier de votre culture, de votre patrimoine, de votre terroir ?
Oui.
Oui.
Vous pouvez le montrer en vous procurant une peluche galette saucisse.
Oui.
C'est nouveau, ça vient de sortir. Personne ne l'avait fait, personne n'y avait pensé, il l'a fait. Un graphiste rennais a créé ce doudou avec Burton, sa marque de vêtements et d'accessoires. Alors selon certains et certaines qui ont l'esprit mal tourné, il a un côté un peu, on va dire, phallique. On vous laissera juger, allez voir sur internet. En tout cas, moi je trouve ça plutôt cool d'avoir une peluche galette saucisse, non ? C'est Fanny.
Ça le fait.
C'est Fanny. Ok. On valide tout de suite le flash d'Anna.
L'escalade a repris cette nuit au Moyen-Orient. Après l'abattage d'un hélicoptère Apache américain près du détroit d'Ormuz, les États-Unis ont frappé des installations militaires iraniennes sur la côte sud de l'Iran. Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, le CENTCOM, parle de frappes d'autodéfense et de réponses proportionnées. Téhéran a riposté en ciblant des bases américaines au Bahreïn, en Jordanie et au Koweït. À Sirik, ville portuaire iranienne, par des températures de 45 à 50 degrés, 20 000 personnes se retrouvent sans eau potable après la destruction de deux réservoirs. La Russie et la Chine appellent à la retenue. Ces développements torpillent l'optimisme affiché quelques heures plus tôt par Donald Trump, qui évoquait un accord prochain avec Téhéran. La Coupe du Monde s'ouvre demain et elle sera historique. Pour la première fois, 48 nations participent à la phase finale contre 32 pays au Qatar. Le tournoi se déroule aux États-Unis, au Canada et au Mexique jusqu'au 19 juillet dans 16 stades et sur 104 matchs. Le coup d'envoi sera donné demain soir au stade Azteca de Mexico avec un match qui opposera le Mexique à l'Afrique du Sud. La finale se jouera au MetLife Stadium de New York. Côté bleu, ils entreront en lice le 16 juin face au Sénégal, à New York également. Ce mondial soulève aussi une question. Sur 150 journalistes français envoyés sur place, seulement 10 sont des femmes. En presse écrite spécialisée, 2 femmes pour 80 hommes. La journaliste Marie Portolano dénonce dans Libération des décisions humaines, pas une fatalité. L'Observatoire européen Copernicus alerte sur les événements météorologiques extrêmes. Le programme d'observation de la Terre de l'Union européenne a publié hier son nouveau rapport. Léonore, explique-nous où en est notre planète d'après Copernicus.
L'étude est alarmante, les phénomènes extrêmes deviennent la norme, assène Copernicus. Le mois de mai 2026 se classe juste derrière celui de 2024 en matière de record de chaleur. En France, au Royaume-Uni, en Irlande et au Portugal, les températures élevées ont engendré des situations particulièrement difficile, explique l'organisme européen. Copernicus s'appuie notamment sur plusieurs outils qu'il a développés, comme Thermal Trace, qui permet d'observer les situations de stress thermique sur une période donnée. Pour Samantha Burgess, climatologue chez Copernicus, ces vagues de chaleur en Europe sont particulièrement précoces cette année. D'après la chercheuse, cela traduit une accélération des épisodes climatiques extrêmes de plus en plus fréquents.
Comment évoluent ces événements ?
L'Institut européen observe un réchauffement toujours plus rapide en Europe qui s'accentue d'année en année. Si l'on remonte au mois de mai dernier, terres et mers confondues, la température moyenne a atteint 15,81 degrés. C'est 1,42 degrés de plus que la valeur estimée pour un mois de mai durant la période pré-industrielle. Alors on le sait, entre 1850 et 1900, il n'y avait ni combustion massive de charbon, ni consommation à grande échelle de pétrole ou de gaz. Bref, les principales sources de pollution responsables du réchauffement climatique n'existaient pas dans les proportions que nous connaissons aujourd'hui. Mais tout de même, l'augmentation du réchauffement est inquiétante.
Et la température de l'eau dans tout ça ?
Copernicus évoque des températures exceptionnellement élevées dans le Pacifique tropical. Concernant le Pacifique équatorial, il poursuit son évolution naturelle vers la phase El Niño qu'il pourrait atteindre dans les mois à venir. Ce phénomène débute généralement au printemps et influence ensuite les températures, les vents et le climat à l'échelle mondiale. En Indonésie par exemple, El Niño est souvent synonyme de sécheresse. A l'inverse, au Pérou, il provoque généralement de fortes pluies. Le phénomène El Niño ne se produit pas chaque année, le dernier épisode remonte à 2023-2024. D'après les prévisions de l'Organisation météorologique mondiale, son retour est considéré comme probable entre juin et août de cette année.
Merci Léonore. Le SMIC a augmenté de 2,41% au 1er juin, soit 35 euros net de plus par mois, pour atteindre 1477 euros. Une hausse mécanique déclenchée par une inflation remontée à 2,2% en avril, elle-même alimentée par la flambée des prix de l'énergie liée à la guerre au Moyen-Orient. Mais ce n'est pas un coup de pouce supplémentaire gouvernemental. Le dernier remonte à 2012. Pour la CGT, je cite, ce n'est pas du plus, c'est juste le maintien du niveau de vie. Un autre chiffre fait débat, 126 branches professionnelles sur 179 ont désormais des minima salariaux inférieurs au SMIC. Les syndicats réclament des sanctions, elles n'existent toujours pas. À l'issue de 48 heures de garde à vue, le parquet de Nanterre a requis la mise en examen de Patrick Bruel et son placement en détention provisoire. Le chanteur de 67 ans est mis en cause pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel sur 9 victimes pour des faits commis entre 2010 et 2019. D'autres faits plus anciens, potentiellement prescrits, ont été joints au dossier. C'est désormais un juge d'instruction qui décide de sa mise en examen, puis un juge des libertés qui se prononce sur la détention. L'artiste nie l'intégralité des faits. Tenue festive, cagoule prune avec des pompons multicolores et tambours, le collectif Bouge ta préf était présent cet après-midi devant la préfecture rennaise. Dans toute la France, des Jeux Olympiques, des démarches en préfecture étaient organisées pour dénoncer les lenteurs administratives. À Rennes, plus d'une soixantaine de personnes étaient présentes. Léonore a suivi le groupe pour échanger avec une manifestante et une organisatrice, Armelle Bounia du MRAP 35, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples.
Pour moi, j'ai fait demande pour titre de voyage. Préfecture dit, eux, ils ne me connaissent pas. Parce que, et en plus, c'est eux qui m'ont donné titre de séjour, c'est eux qui m'ont donné le passeport aussi. Mais là, il n'y a pas de réponse pour moi, ça fait déjà 3 mois.
Prochaine candidate, quel obstacle allez rencontrer sur votre démarche à la préfecture ? La session est expirée.
Le collectif Bouge ta préf, c'est un collectif de Rennes qui réunit quasiment toutes les associations qui font de l'aide à l'accès au droit à Rennes. Et les mêmes collectifs existent dans plusieurs villes qui se sont regroupés pour faire une action tout le monde en même temps aujourd'hui. On a demandé un rendez-vous à la préfecture depuis plusieurs semaines. Elle ne nous répond pas. Donc on essaye de trouver une formule pour atteindre la préfecture et pour se faire entendre. Quoi. On est là, nous, ici à Rennes, mais ça se passe la même chose dans beaucoup de préfectures de France, parce que depuis la dématérialisation des démarches, les gens ont énormément de mal à faire leurs démarches, au risque, pour ceux qui ont déjà un titre de séjour, au risque de ne pas le voir renouvelé dans les temps, et donc de se retrouver à nouveau sans papier, de perdre leur travail, leur logement.
Pas d'ordinateur ! Les interlocuteurs,
les sites internet sur lesquels ils doivent faire leurs démarches sont extrêmement complexes, pas du tout adaptés à leur public. C'est souvent en panne, il y a des exigences de documents énormes. Enfin, donc les gens n'y arrivent pas tout seuls, sont obligés de chercher de l'aide. Et à chaque fois, c'est un énorme stress pour eux, parce que si les choses ne sont pas faites dans les temps, ils vont perdre tous leurs acquis.
C'était un reportage de Léonore. Lundi, le tribunal de Rennes a condamné un marabout guinéen à 2 ans de prison ferme. Le verdict est rendu, mais il arrive trop tard. L'homme a déjà pris la fuite pendant le délibéré. Un mandat d'arrêt est émis, il court toujours. Alors, les faits remontent à 2021. Un chef d'entreprise de 43 ans, vivant à Meillac, vient de se séparer de sa compagne. Il fait appel à ce marabout qui lui promet le retour de l'être aimé contre de l'argent. Beaucoup d'argent, 166 000 euros au total. Les comptes de son entreprise sont vides, ses amis sont ruinés avec lui. Dans son téléphone, 1300 messages sont découverts, souvent envoyés entre 3h30 et 6h du matin. Le 27 août 2022, il s'est suicidé. À la barre, le marabout a assuré qu'il y a des choses qui ont marché. Des collégiens, collégiennes, lycéens, lycéennes immergés en pleine Seconde Guerre mondiale, au début du mois, ils et elles ont participé à Résistance, un jeu théâtralisé autour de l'engagement et des parcours de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale dans le centre-ville de Rennes. Solène s'est rendue sur place.
Les amis, vous l'aurez sûrement compris, la situation devient urgente. L'Américain est blessé. S'il n'est pas mort, nous devons lui apporter des soins au plus vite.
Lancés à la recherche d'un parachutiste américain blessé dans les rues de Rennes, 300 jeunes ont pu s'immerger dans la Seconde Guerre mondiale. Sur leur route, ils ont fait la connaissance de plusieurs figures de la résistance rennaise qui ont vraiment existé.
Alors moi je me présente, moi c'est Mèche Courte, mais maintenant que vous me connaissez, vous pouvez m'appeler Dédé. André.
Je suis Madame Jean, je crois que vous avez quelque chose pour moi.
Bien, alors je me présente, je suis Le Vigan, responsable du comité de libération de Rennes et écrivain à mes heures perdues.
Et les élèves ont pu prendre part à la résistance à leur tour à travers le renseignement, le sabotage, la création de faux papiers ou encore le décodage de messages radio.
Les Français parlent tout français. Ici Londres.
À Rennes, on expérimente beaucoup les nouvelles pratiques mémorielles parce qu'on se rend compte que les jeunes, ils sont très éloignés des conflits contemporains, ils ne les comprennent pas forcément, ils s'éloignent aussi des cérémonies. Donc à travers le théâtre, on a l'impression en tout cas qu'ils comprennent un petit peu mieux le sens du travail de mémoire.
Nathalie Bidan, référente régionale mémoire de l'ONAC-VG et responsable nationale mémoire et spectacle vivant, a participé à la conception de ce jeu.
J'ai l'impression que ça a été très bien accueilli par les jeunes. On a des publics différents. Ce programme il est destiné à des classes de la 4e jusqu'à la terminale.
Une immersion que les apprentis résistants et résistantes ont appréciée, comme Sacha Boudot, élève de 4e au collège Échange à Rennes.
Aujourd'hui, cette activité m'a permis d'apprendre la Seconde Guerre mondiale tout en étant un résistant. Je pense que je ne suis pas le seul à avoir aimé parce que c'était instructif et amusant aussi.
Le projet est porté par l'ONAC-VG, l'Office national des combattants et victimes de guerre, la ville de Rennes, le ministère des armées et le cercle des amis de la mémoire partagée. À quelques kilomètres à l'est de Rennes, à Donloup, une vingtaine de réfugiés sans papier retournent la terre chaque semaine. Ils cultivent une parcelle prêtée par un éleveur breton. Tout est parti de la rencontre entre Eddy, un réfugié camerounais, agriculteur de formation, et Grégory Bertel, qui lui a prêté un de ses hectares il y a quelques mois. En France depuis 3 ans, Eddy a créé le collectif des agriculteurs philanthropes. Après avoir été aidé par les Restos du Cœur, il cherche à rendre l'appareil grâce à cette initiative. Ici, tout est cultivé en bio et en agroforesterie. Celles et ceux qui viennent cultiver peuvent récupérer une partie de leur travail et le reste va aux associations.
C'est la fin de ce flash. Merci Anna.
Merci.
Quelle heure est-il ?
6 heures.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
À minuit, plus personne.
6 heures avant minuit.
On poursuit avec l'interview du jour. Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Clotilde Martin, vêtue de son débardeur marron. Kylian et Félix avec leur t-shirt noir. Bonsoir. Pardon, plutôt bleu, pardon pour le t-shirt. Donc, Clotilde Martin, vous êtes responsable communication de l'Institut Marie-Thérèse Sola Group. Aussi dit IMTS.
Tout à fait.
Un centre de formation dédié aux jeunes adultes porteurs de handicap invisible. Félix, vous êtes étudiant à l'IMTS. Kylian, vous l'avez été aussi. Donc, on va commencer tout de suite. L'Institut Marie-Thérèse Sola Group, c'est un centre de formation unique en Bretagne basé à Dinard. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu plus la structure ?
Oui, absolument. Donc, du coup, le centre de formation a été créé en 2018. Donc du coup, c'est un centre de formation professionnelle classique dans son fonctionnement. Voilà, on est agréé Calliope, etc. Et alors du coup, on forme, c'est là notre spécificité, En immense majorité, donc à plus de 85% des jeunes, alors quand je dis jeunes, c'est à partir de 16 ans et ça peut aller jusqu'à 30, 35 ans, parfois un peu plus, porteurs de troubles du neurodéveloppement. Donc c'est ce qu'on appelle les handicaps invisibles, même si voilà, c'est un peu plus large que ça. Les troubles du neurodéveloppement, ça comprend les troubles du spectre de l'autisme, les troubles déficitaires de l'attention, du déficit de l'attention, pardon, avec ou sans hyperactivité, les troubles des apprentissages. Donc voilà, il y a différents troubles. On accompagne aussi des jeunes qui ont des troubles de la santé mentale ou des jeunes HPI. Donc voilà, c'est donc du coup alors on les forme, on les accompagne sur plusieurs parcours. On pourra peut-être revenir après dessus sur plusieurs parcours sur une durée en général de qui va de quelques mois et qui peut aller jusqu'à 3 ans avec aussi un système d'hébergement. Donc pour la plupart d'entre eux, ils vivent dans le centre de formation sur la période pour laquelle ils sont avec nous.
Oui, on reviendra sur les parcours dans un petit instant. Mais du coup, vous êtes les seuls en Bretagne à le faire, c'est ça?
Oui, tout à fait. En fait, ce fonctionnement est vraiment, voilà, est vraiment spécifique et on a sincèrement souhaité travailler pour ces publics-là. Et puis voilà, à notre connaissance, aujourd'hui, il y a très très peu de structures en France qui proposent à la fois de la formation, à la fois de l'accompagnement, à la fois de l'hébergement, tout en étant hors champ médico-social. On ne relève pas du médico-social, donc on n'a pas le carcan, on va dire, du médico-social, même si voilà, y a plein de choses pour lesquelles c'est nécessaire de l'avoir. Nous, voilà, on a vraiment faire le pont entre l'accompagnement lié au handicap et le milieu ordinaire. Et en ça, effectivement, on est plutôt unique, je crois.
Et donc, justement, cette formation, elle, concrètement, qu'est-ce que c'est? Il y a combien de parcours? Qu'est-ce qui est possible de faire?
Alors, il y a plusieurs parcours, on va dire, il y a 3 parcours qui ressortent. Je vais commencer du plus court et dans le sens logique. Donc, on a un premier parcours qui va être de l'accompagnement avant l'emploi, donc avant de rentrer en formation sur un métier spécifique, ce qu'on va appeler de la pré-apprentissage, alors c'est un peu technique. Et l'idée, en fait, c'est sur un parcours de 5 mois environ, d'accompagner un petit groupe sur de la reprise de confiance en soi, de acquérir de l'autonomie, acquérir des compétences socio-professionnelles et découvrir plusieurs champs de métiers. Et l'objectif à l'issue de ce parcours-là, donc c'est d'avoir voilà, repris confiance en soi et acquis plein de choses qui serviront pour la suite, et d'avoir une idée de métier ou en tout cas de corps de métier en tête. Et alors pour certains, ça peut aller jusqu'à être inscrit dans une formation en apprentissage. Donc voilà, ça c'est le premier parcours. Le deuxième parcours, ça va s'apparenter à ce premier parcours sur le volet accompagnement social, mais on a aussi avec la spécificité d'accompagner d'être sur le numérique. Donc c'est une prépa sur le numérique. Donc là, on s'adresse plutôt à des jeunes qui ont déjà un intérêt sur le code, sur les jeux vidéo, sur l'univers du numérique de manière générale. Et donc du coup, alors, on les accompagne sur une même durée, environ 4 à 5 mois, sur ces parcours, sur la découverte des métiers des métiers du numérique. Et donc le dernier parcours, c'est un parcours qui est un peu plus long parce que c'est un parcours qui est certifiant. C'est pour acquérir un titre de développeur web et web mobile. Alors la petite nouveauté là sur les prochaines sessions, c'est qu'on va y ajouter la dimension intelligence artificielle. Comment on travaille avec cette intelligence artificielle dans le métier du développement, dans les métiers du développement, dans ce métier-là spécifiquement. Comment on s'en sert de manière éthique, responsable, consciente. Donc voilà, c'est les 3 parcours qui sont proposés. Donc ce dernier parcours est sur une année.
Et concernant les formations et surtout les formateurs et formatrices, comment ça se passe? Est-ce que c'est des professionnels qui viennent ou qui sont directement intégrés dans...
Alors, c'est une équipe qui est sur place en permanence. Donc, on est salariés du centre de formation. Donc, c'est les mêmes personnes qui restent, voilà, qui accueillent les différents groupes. La question de stabilité était quand même importante. C'était pas d'avoir des visages différents à chaque cours. Et donc ça, voilà, on a 2 pôles au niveau de la formation. On a vraiment le pôle de formateurs. Et en général, ce sont des professionnels du secteur, en l'occurrence dans le numérique. Et on a un pôle qu'on appelle un pôle médiation. Et donc là, c'est plusieurs personnes qui s'occupent vraiment de tout l'accompagnement transversal, l'accompagnement social. Voilà, toutes les adaptations qui peuvent être mises en place, que ce soit sur le rythme des cours, que ce soit sur des choses un peu pratiques au niveau du bureau, de l'espace de travail, que ce soit sur d'autres dimensions. C'est vraiment les deux pendant de la formation et de l'équipe.
Ok. Et Félix et Kylian, du coup, je vais me tourner vers vous. Vous avez bénéficié ou vous bénéficiez encore de justement cette formation à l'IMTS. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre vécu? Qu'est-ce que ça vous a apporté comme expérience?
Déjà, je vais relever le fait que moi et Félix, on s'est justement rencontrés lors de la deuxième formation, mais qu'on avait déjà, qu'il en évoquera aussi de sa part, eu déjà une formation donc à peu près sur un délai de 8 mois en tout, en termes d'expérience. C'est ce qu'on a eu à peu près. Après, c'était pas pendant les mêmes périodes, sauf la dernière, qui était depuis la fin de l'année dernière jusqu'en août. Donc, 4 mois. Hein. Et ça s'est, pour ma part, très bien passé. Félix, hein.
Dans ce cas-là, moi c'est Félix. Comme l'a dit Kylian, on a été en formation une première fois à des périodes différentes. Je pense que la première c'était pour moi de octobre 2024 à mai 2025. Et donc du coup la seconde où j'ai rencontré également Kylian, c'était de décembre 2025 à avril 2026. Je pense que là-bas, la plus grande force, c'est donc il y a les formations, mais il y a aussi la vie en dehors, donc à l'internat, où c'est d'autant plus facile pour créer des liens. Après, chacun aura son opinion là-dessus, mais moi, je sais que je suis très extraverti. Donc, je vais forcément chercher à avoir des liens, à organiser des activités. Et c'est pour ça que je pense que, à la fois, j'apporte aux autres, mais également... J'aime ce que j'ai le plus reçu, c'est l'apport que chacun de ces jeunes ont pu également m'apporter.
Pourquoi c'était important pour vous deux de vous tourner vers cette structure?
Pour moi, c'était une recherche de projet, parce que mon présent projet, il n'a pas pu voir le jour. Du coup, j'étais en remise en question et je voulais me tourner vers un domaine complètement différent.
Moi, c'était plus à but de recherche professionnelle. Mais comme je l'évoquerai un peu plus tard, ça m'a apporté bien plus que ça. Et Félix pourra lui-même en donner sa version des faits.
Oui, tout à fait.
Et vous avez senti que vous étiez à votre place, justement
Ah oui, très clairement. Oui. Très clairement. C'est bien pour ça que j'aurais aimé, ou que j'aimerais qu'on ait bien plus de structures dans le genre... que ça se diversifie déjà dans la Bretagne, voire même dans tout le pays entier.
C'est vrai que ce qui aide à ce bien-être et le fait qu'on se sente à sa place, c'est que les formateurs, l'administration, tout le monde est beaucoup à notre écoute. On est dans un cadre assez privilégié avec un château, un parc... l'accès facile pour aller se balader si on veut se balader et puis si on veut des interactions il y a juste à sortir un tout petit peu de la chambre et puis il y a forcément quelqu'un qui voudra faire quelque chose, donc ne pas hésiter à aller vers les autres ou laisser les autres aller vers nous. Pareil pour tout ce qui est repas, c'est très convivial en général, hein. Après, voilà, ceux qui veulent manger tout seuls peuvent manger tout seuls également. Hein. Après tout, on est tous bienveillants et respectueux des besoins des autres. Mais on a le choix. Soit si on mange tout seul, on mange tout seul. Soit si on veut être en compagnie, on peut être toujours en compagnie de diverses personnes. Et les échanges se font hyper facilement au-delà de dans la structure et en dehors également. Par exemple, Kian pourra confirmer, mais on a gardé contact avec pas mal de personnes qui sont allées, qui sont toujours.
Oui, tout à
que
fait.
Peut-être qu'ils reviendront plus tard, on sait pas. Par exemple, tout à l'heure, je vais aller faire une animation là-bas. Ça me fait vraiment du bien de me dire, on coupe pas les ponts, on peut se revoir, et puis ça crédibilise d'autant plus la place finalement qu'on a pu se faire, ou enfin de trouver cette place que peut-être dans un milieu ordinaire ou dans des études antérieures qu'on n'a peut-être pas pu trouver.
tu dis on coupe pas les ponts, c'est plutôt l'inverse, on en construit davantage.
Exactement.
Et au final, l'IMTS, c'est plus de 450 jeunes et adultes qui sont accompagnés pour une formation qualifiante ou un emploi. Mais vous l'avez évoqué, il y a même au-delà de ça aussi des liens qui se construisent. Pourquoi c'est important cet accompagnement complet et adapté hors du champ médico-social?
Je pense que c'est important dans le sens où, comme Kylian et Félix l'ont dit, c'est qu'on n'apporte pas une solution sur un seul point, donc seulement sur la partie emploi ou seulement sur un diplôme ou seulement voilà, sur un point précis. Mais on essaye, dans la mesure du possible, d'avoir vraiment un accompagnement global. Et l'objectif, c'est qu'effectivement, il y ait une poursuite dans l'emploi derrière, mais qu'il y ait aussi toutes les clés pour avoir une vie d'adulte, de jeune adulte, voilà, qui soit épanoui. Le travail, c'est important, mais ça va bien au-delà. Et donc, du coup, c'est vraiment pour ça qu'on a voulu mettre en place cet accompagnement global au-delà de la dimension emploi.
Notamment au sujet du handicap invisible dont on parle peu. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu une évolution de la reconnaissance des personnes porteurs et porteuses d'handicap invisible?
Alors, une évolution dans la reconnaissance, je sais pas, on en parle plus, on parle notamment, on en parle quand même plus, je trouve, de manière assez objective au quotidien, mais on n'en parle pas forcément bien. Et c'est vrai que, ça m'horripile, mais j'entends souvent, oui, par exemple, le TDAH, c'est un effet de mode, etc. Et c'est très dur parce qu'en fait, quand on travaille au quotidien pour et avec des gens porteurs de ce type de handicap et de troubles, on se rend compte que voilà, en fait, il y a très peu de bonnes définitions et de bonnes compréhensions de ce que c'est. Et surtout, alors oui, il y a des choses à mettre en place assez spécifiques pour accompagner ce type de troubles, mais il y a surtout de la bienveillance, du temps et un peu de souplesse dans l'accompagnement. Et c'est souvent ça qui est reproché, c'est que c'est vrai que dans des parcours scolaires et d'études classiques, il y a de la masse, il y a du nombre, donc on a un seul parcours, et bon, souvent un peu tout seul aussi face à ce parcours-là. Et alors que ouais, du coup, l'idée, c'est plutôt d'avoir de la souplesse, de pouvoir faire des pas de côté, de pouvoir trouver des solutions, de se réadapter un peu en permanence. Voilà.
Notamment dans vos formations, c'est une quinzaine de places, c'est ça?
Oui, alors c'est des petits groupes. On tient à garder des petits groupes. On accompagne 15 jeunes maximum par promo. On est plus souvent autour d'une dizaine. Entre 10 et 15, ça permet de pouvoir vraiment avoir un suivi précis de chaque personne. Et puis de voir, enfin, le formateur voit directement quand quelqu'un n'est pas là, quand quelqu'un ne va pas bien, quand quelqu'un commence à tous bien se connaître. Donc... Ça permet de remarquer plus facilement ce genre de choses.
Et actuellement, vous craignez aussi les coupes budgétaires. Il y a d'ailleurs une pétition qui a été en ligne pour soutenir l'IMTS. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelle situation vous vous trouvez actuellement?
Oui, bien sûr. Alors, le centre de formation, donc c'est un centre de formation professionnelle qui est financé en grande partie par la région Bretagne, comme plein d'organismes de formation, qui subventionnent les parcours d'un nombre de jeunes par an. Donc au-delà d'avoir la gratuité des parcours, les jeunes sont aussi rémunérés. Ils reçoivent une petite gratification pour leur parcours. Là, je parle de la partie numérique et de la partie qualifiante. La partie pré-apprentissage, c'est un peu différent. Mais il y avait d'autres financements. Mais en tout cas, voilà, les parcours étaient gratuits jusque-là. Et aujourd'hui, malheureusement, la région elle-même a des grosses coupes de financement liées plutôt aux strates supérieures. Et donc du coup, comme beaucoup d'autres centres de formation, on se retrouve un peu dans la difficulté parce qu'il y a des arbitrages qui sont faits au niveau de la région qui pourtant nous soutient, hein, toujours. Ça, on en est tout à fait conscient et très heureux, qui essaye tant bien que mal de garder une petite partie de financement. Mais aujourd'hui, on sait que ça va se réduire. C'est à peu près certain, et donc du coup on explore d'autres leviers de financement. Donc ce sera pas de la gratuité, malheureusement. En fait, ça a été un peu un dilemme éthique pour nous de se poser la question de financer les parcours par les familles ou par les jeunes eux-mêmes, mais voilà, c'est quelque chose qui nous a aussi été demandé, d'avoir cette possibilité là donc là, pour la rentrée prochaine du mois d'octobre, on explore du coup une possibilité de participation des familles pour les parcours. Nous, on s'engage à continuer à aller chercher des fonds privés aussi pour financer une partie de ces parcours, que tout le poids ne retombe pas sur les familles ou sur les jeunes. Donc voilà, en fait, on a l'argent public nous subventionnait une grande partie du fonctionnement du centre de formation. Aujourd'hui, c'est un secret pour personne, il y a moins d'argent. Donc du coup, alors, on explore d'autres solutions. Voilà, l'idée, on n'en est plus. On aurait pu se dire, on ferme nos portes parce que voilà, on se dit que c'est plus possible. Mais on n'a pas souhaité faire ce choix-là parce que voilà, on est convaincu de ce qu'on fait et de l'importance de ce qui est fait. Donc on essaye d'aller chercher d'autres subventions. On développe aussi une campagne de collecte de fonds privés chez les particuliers pour laisser aussi la possibilité à des grandes fortunes potentiellement de nous soutenir. Donc, pour la partie financement.
Merci, on arrive à la fin de cette interview. Donc merci Clotilde, Kylian et Félix d'être venus nous parler de l'Institut Marie-Thérèse Sola Group. On le rappelle, c'est un centre de formation unique en Bretagne dédié aux jeunes adultes porteurs et portrices de handicap invisibles. Et une pétition est donc en ligne.
Tout à fait. Et puis, si je puis me permettre, on a une porte ouverte, une journée porte ouverte le 4 juillet prochain pour des personnes qui pourraient être intéressées par l'ensemble des parcours dont on a parlé tout à l'heure. Ce sera l'occasion de venir voir ce qu'on fait, de rencontrer les équipes et puis peut-être de s'inscrire pour la rentrée. Il y a encore des places.
Mais super. Merci beaucoup.
Merci. Merci à vous.
Merci.
6h avant minuit.
Aujourd'hui, dans sa chronique psychépique, Marie-Lune nous présente le dispositif Vigimental, une innovation sociale et territoriale qui illustre ce que peut être la démocratie participative en santé mentale. Ce dispositif est porté depuis 2022 par un des 7 conseils territoriaux de santé breton et donc soutenu par l'Agence régionale de santé.
Ici, on ne miaule pas. Ici, on dit que, dans la vie, on n'a pas que les galères qu'on se crée soi-même. Elles peuvent aussi nous tomber dessus. Ping ! Des pertes, des événements dramatiques, des difficultés relationnelles, un sentiment d'impuissance. En plus, notre monde continue de muter, ce qui est assez anxiogène et peut rendre triste même. Notre santé mentale est mise à mal. Tout cela peut aller jusqu'à nous faire vriller ou même penser au suicide. Cela s'observe pas mal en France. Et pour la Caisse d'assurance maladie, 25% des gens du pays sont, au cours de leur vie, concernés par des difficultés de santé mentale. C'est énorme. Alors, des gens qui s'occupent de politique et de santé publique ont dit « ça ne peut plus durer !» Et ils ont sollicité des personnes qui s'y connaissent sur le sujet. Des professionnels travaillant en libéral ou dans des structures publiques ou privées, des bénévoles, des personnes concernées et même des citoyens, citoyennes qui s'intéressaient au sujet par solidarité. Tout ce monde fut réuni dans des groupes motivés appelés CTS pour Conseil Territorial de Santé et, quelque part, en Armorique, un de ces conseils territoriaux de santé a inventé le dispositif Vigimental. Les buts de ce dispositif, situé en Ille-et-Vilaine, sont au moins au nombre de 2 et se déclinent de plusieurs façons. Le premier but est de sensibiliser la population aux troubles de santé mentale, luttant ainsi contre les préjugés qui isolent, parce que c'est mal. Oui, pas d'angélisme, ce n'était pas mieux avant. En Bretagne particulièrement, la solution, c'était souvent l'alcoolisation ou le suicide, et hélas, ça le reste. Le deuxième but de ce dispositif est de construire et d'animer un réseau de citoyens, citoyennes, sensibilisés donc, formés par exemple au premier secours en santé mentale, afin de créer un maillage solidaire de veilleureuses, veilleurs, veilleuses, en santé mentale, de Redon à Saint-Malo. Dardan à Saint-Malo. Ce réseau permet aux veilleurs veilleuses de connaître les solutions ou structures d'aide pour informer ou orienter les personnes en difficulté qui, elles, côtoient. Cela permet de faire le lien entre les personnes en souffrance et les dispositifs existants, comme par exemple de conseiller à une personne une structure de soutien aux victimes, d'aide à la parentalité ou encore pratiquant l'art-thérapie. L'avantage pour les veilleureuses est également de pouvoir, si elles le souhaitent, être soutenues dans leur pratique qui, bien que bénévole, peut tout de même les impacter, les faire douter. Pour cela, elles peuvent participer à des ateliers d'approfondissement des connaissances, par exemple sur les addictions, ou à des groupes d'analyse de la pratique, par exemple sur la façon d'aborder un ou une collègue de travail. Ou encore, elles peuvent se voir proposer des jeux de rôle mentaux pour continuer à réfléchir à différentes situations complexes. Le dispositif Vigimental a choisi Tribal pour sa communication au sein de son réseau. Ainsi, en plus, on évite les GAFA, qui sont si peu scrupuleux quant à la santé mentale de leurs utilisateurs RIS. Pour en savoir plus sur Vigimental, vous aurez de l'agrément en consultant leur super site internet santémentale35.fr, un site très riche qui contient de nombreuses informations utiles et pertinentes. Quelques éléments de référence de cette chronique sont également sur la page du podcast de 6h avant minuit.
Merci Marie-Lune, on te retrouve mercredi prochain pour la toute dernière chronique psychipique de la saison. Et puis, nous, il nous reste juste à écouter le répondeur, on va voir si on a un message ce soir.
Ouais.
Clic.
Le téléphone.
Allô, allô.
Silam, la radio sauvage.
Bonjour Silam, je vous appelle parce qu'il y a quelque chose d'hyper choquant et en fait on n'est pas au courant. Il y a un projet de mine en Bretagne pour aller chercher des minerais sous la terre, ce qui serait un désastre écologique. C'est un milliardaire canadien qui a convaincu l'État français, qui a donné son accord. Et donc, c'est en train de se préparer. Les maires des communes en question, on leur a fait promettre le secret. Donc, ça craint et il faut se mobiliser, signer une pétition. Ça s'appelle Stop Taranis. C'est le nom d'un des projets. Le site, c'est stop-taranis, T comme Théodore, A-R-A-N comme Noémie IS.org stop-taranis.org et il y a toutes les infos, la pétition et on croise les doigts. Merci à tous et à toutes.
Merci chère auditrice pour avoir parlé de ce sujet important.
Merci.
02. Merci, oui, tout le monde te remercie.
Merci.
02 30 96 25 35, c'est le numéro pour laisser un message vocal et puis pour voir les réactions de l'équipe à ce message vocal.
Et pour nous dire que vous nous aimez, parce que ça nous, on vous aime, ouais. Chères auditrices.
C'est beau ce que tu dis, Léonore. Si jamais vous avez acheté une peluche galette saucisse, dites-nous aussi... comment ça se passe dans la vie. 02 30 96 25 35. Merci Timour pour la technique. À
merci
demain dans
6 heures avant minuit.
Si. La radio sauvage.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure très bien.
6 heures. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du show.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab, la radio sauvage.